Voilà, alors ce matin, on va lire ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et en préparant ce message, je me suis dit, je ne sais pas si les hommes ont la même sensibilité que les femmes par rapport à ce passage. Vous allez comprendre tout à l'heure quand on va le lire ensemble et quand je vais développer ce texte. Donc c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Les versets 25 à 30, et j'ai intitulé ce message « L'Église, épouse de Jésus-Christ ». Alors, c'est sûr qu'en tant qu'homme ou femme, on n'a peut-être pas la même sensibilité quand on parle de conjugalité, d'époux ou d'épouse. Et je me suis fait donc cette remarque en préparant ce passage. Et je me suis dit, oui, effectivement, il y a des accents différents suivant qu'on est un homme ou une femme, en tout cas par rapport à notre vécu dans le mariage, ou ceux qui ne sont peut-être pas mariés aussi, qui ont une vision différente de ceux qui le sont. Bref, je suis convaincu évidemment que ça peut avoir une incidence, mais au-delà de cet aspect-là, nous allons justement... voir ce que les Écritures nous disent sur cette thématique-là, et essayer de sortir de notre tête peut-être des images ou idéalisées ou fausses, ou je sais trop rien, mais en tout cas des pensées qui ne seraient pas celles de la parole de Dieu. Alors on va lire ensemble ce texte, Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 25 à 30. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Donc, il est question de la purification, si vous voulez, de tous les rituels, les prescriptions alimentaires, le lavement des mains, en fait, toutes ces choses-là que les juifs pratiquaient à ce moment-là. Donc, il y avait un peu une polémique entre les disciples de Jean, les pharisiens, et puis ceux qui suivaient un nouveau maître, en l'occurrence, je parle de Jésus. Donc, il vint retrouver Jean, c'est Jean-Baptiste, hein, et lui dire « Rabbi », donc ce qui veut dire « maître », « celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et que tous viennent à lui. » Donc là, il est question de Jésus. Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Vous, vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Alors, dans ce texte, il est parlé de mariés, donc d'époux et d'épouses. Et puis aussi, il y a un troisième personnage dans ce texte, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est l'ami. L'ami de l'époux. Alors, on va d'abord parler de cet ami, l'ami de Jésus, donc, qui est en l'occurrence là dans ce texte, Jean-Baptiste. Donc dans ce texte, Jean-Baptiste se compare à l'ami du marié, vous l'avez compris. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute, hein, éprouve, à la fin du texte, une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne. Donc c'est bien Jean-Baptiste qui se compare à cet ami du marié. Dans le mariage juif, effectivement, on avait l'ami du marié, et cet ami, on dirait aujourd'hui comme, soit un témoin, mais quand on choisit un témoin, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on a connu depuis longtemps, qui on a vraiment confiance, et on veut qu'il se réjouisse avec nous de ce qui nous arrive. Et donc, Jean se compare à cet ami du marié. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la, la liturgie, entre guillemets, dans la tradition qui entourait toute la cérémonie du mariage juif, l'ami avait donc un rôle important. Et cet ami précédait la venue de l'épouse en restant avec l'époux, l'ami restait avec l'époux. Il venait donc, il précédait l'épouse qui allait arriver par après. Donc Jean-Baptiste, lui qui est le dernier des prophètes, il se met à la place de cet ami et il a pour vocation, on le sait, de préparer dans le cœur de ses contemporains, et plus précisément des Juifs, la réception, l'accueil du Messie, en l'occurrence le marié. Et vous savez comment il l'a fait. Bon, il a payé de sa vie d'ailleurs, par son témoignage sans faille dans sa vocation. Et il préparait donc l'accueil de Jésus par ce fameux baptême de repentance, disant au peuple d'Israël qu'il fallait qu'il se repente pour se préparer pour recevoir le Messie. Jusqu'à la Pentecôte, tous ceux qui ont côtoyé Jésus et qui furent ses disciples, bien, ont été en quelque sorte, eux aussi, les amis de Jésus. Les amis de Jésus. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jean au chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. » Donc il parle de ses disciples, « parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Donc il faut comprendre là que ce terme d'ami à ce moment-là, il est lié à un temps du salut, avant que le Saint-Esprit vienne à la Pentecôte, révélé dans les cœurs, ce fameux baptême de feu et d'esprit, comme l'a prédit Jean-Baptiste, avant qu'il puisse comprendre réellement que Jésus est cet époux et que par notre union à lui, nous devenons son épouse. Donc, c'est vrai que les disciples et tous ceux qui ont été contemporains de Jésus ont eu le privilège d'avoir Jésus physiquement, d'être appelés ses amis, il leur parlait, Jésus, il les enseignait. Certes, il leur a révélé sa filialité avec le Père Céleste, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père », mais en réalité, quand on regarde un peu leur attitude, ils n'avaient rien compris. « Arrière de moi, Satan ». Donc, on est loin de ce qui s'est passé à la Pentecôte quand l'Esprit a été déversé et que là, Pierre a pu prêcher et expliquer qui était Jésus et que 3000 personnes se sont données vraiment à lui et sont devenues l'épouse. Donc, il y a réellement là une distinction à faire entre ami, être l'ami et être l'épouse. Alors bien sûr, je comprends quand on cite souvent ce texte de Jean 15,15, on parle d'amis, on pense à la proximité d'un ami. Mais en réalité, une épouse, c'est autre chose, il y a une communion. Vous savez que l'Église de Jésus-Christ est considérée comme l'épouse. Quel privilège! Je ne sais pas si on a vraiment mesuré la puissance de cette image et les conséquences qu'elle devrait avoir dans la vie du peuple de Dieu. Je ne le crois pas. En tout cas, après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous voyons donc l'apôtre Pierre et tous les disciples de Jésus qui s'expriment très clairement sur le sens de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Eux qui étaient prêts à en découdre, vous savez, quand les brigands sont venus ou Judas est venu pour l'emprisonner. Pourquoi ont-ils changé à ce point? Mais parce que maintenant, ils sont, depuis qu'ils ont reçu l'Esprit du Christ, son Esprit, ils sont en communion avec l'époux. Ils sont l'épouse. Frères et sœurs, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en tant qu'homme, je ne sais pas, des fois, cette image, elle nous dépasse. Nous sommes l'épouse. On lira tout à l'heure le texte d'Éphésiens 5 qui illustre parfaitement cette image, cette analogie, mais qui a un sens réel, une portée spirituelle très puissante. Donc le Saint-Esprit qui a uni dans l'intimité nouvellement acquise, eh bien, va donner donc une nouvelle révélation aux disciples de la personne de Jésus et de ses projets. Donc l'expression « ami de Jésus » dans ces textes représente donc une période, plus exactement une étape dans l'histoire du salut, une transition. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jean-Baptiste, tout en étant l'ami de Jésus, que dit Jésus de lui ? Que celui le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc quand même, vous avez jamais marqué ça ? Quand même, Jean-Baptiste, le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Waouh ! Mais oui, plus grand dans le sens que cette intimité, nous l'avons par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, parce que nous sommes son épouse. Donc, ami, ça représente donc là, dans ces textes-là, une étape dans l'histoire du salut, une transition qui s'opère entre, en fait, l'ancienne et la nouvelle alliance. D'où la phrase de Jean-Baptiste qui a pu paraître énigmatique pour ceux qui l'ont entendue à ce moment-là. « Moi, je vous baptise d'eau. » Déjà bien, c'est une préparation. « Mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. » Et donc, entre l'ombre et la réalité, il n'y a pas photo. La réalité est en Christ. Il y a le passage entre l'ombre et la réalité de l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Et maintenant, venons-en au deuxième point, parlons de l'épouse de Jésus, puisque là, il est parlé du marié, et donc, par conséquence, de la mariée aussi, l'épouse de Jésus. Donc l'ami, on l'a compris, n'est pas l'épouse. L'épouse, dans la pratique et dans le rituel juif, elle se préparait à part pendant que le marié et son ami étaient ensemble en attendant la rencontre entre l'épouse et son époux. Dans plusieurs passages de la Bible, vous savez, c'est une image qui est souvent employée, notamment par les prophètes, pour décrire la relation entre le peuple de Dieu et Yahvé, l'Éternel. Les prophètes ne se lassent pas de comparer cette relation spirituelle à la conjugalité. Osée 2, versets 21 à 22, « Israël, tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice. » Autrement dit, une forme de promesse, de garantie. Cette dot, ce sera la fidélité et la justice. On a entendu tout à l'heure, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Fidélité et justice. L'amour et la tendresse, voilà la dot que je te donnerai. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. De ce fait, dans le judaïsme, le mariage a une portée religieuse très importante, de sanctification et d'élévation, et le couple est comparé à un autel de sainteté. Un autel de sainteté. Pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans, je crois que c'est Hébreux 13, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Un autel de sainteté. D'ailleurs, dans le judaïsme, le mariage est appelé kiddushim, ce qui veut dire sanctification, c'est-à-dire mise à part, c'est-à-dire que l'un et l'autre, les deux conjoints, sont consacrés à l'un et à l'autre. Donc il y a une notion d'exclusivité. Parce que du fait de son mariage, la femme ne peut pas être donnée à une autre personne. Et que le conjoint, l'homme aussi, s'engage, lui aussi, à protéger, à choyer, à aimer. Comme d'ailleurs le Seigneur le fait pour son Église. Le mariage donc est exclusif et implique l'intimité des deux conjoints, une communion indéfectible. Alors cette exclusivité explique les paroles parfois dures des prophètes. Quand le peuple d'Israël court après des idoles, par exemple, les prophètes ne tarissent pas de critiques véhémente, dure. Il qualifie cette idolâtrie de prostitution spirituelle. Prostitution spirituelle. Ben nous, on lit ces textes comme ça, là, ça passe, ça. Prostitution spirituelle, si on garde cette analogie avec le cadre de la conjugalité, on comprend ce que ça veut dire. Et le peuple d'Israël, de peuple infidèle. De peuple infidèle. Osée, chapitre 11, versets 7 à 14, parce que c'est surtout ce prophète-là qui insiste sur cette image, cette analogie. « Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. Voilà. Je guérirai leur infidélité. » Il y a une promesse. « Je les aimerai d'un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. » Puis Jérémie aussi, Jérémie 2, versets 2 à 3, « Va, crie à Jérusalem, ainsi parle le Seigneur, je me souviens de ta fidélité de jeune fille, de ton amour de jeune mariée, quand tu me suivais au désert, sur une terre où rien ne pousse. Israël, tu étais à moi seul, tu m'appartenais. » Donc l'Église est bien, le peuple de Dieu est bien l'épouse promise, mais les noces n'ont pas encore eu lieu. Autrement dit, les noces de l'agneau, je parle, notre rencontre avec le Seigneur. Autrement dit, l'Église est comme fiancée au Christ. Bien sûr, elle est l'épouse. Parce que dans la pensée juive, les fiançailles et la consommation du mariage, une fois qu'on était fiancé, c'est comme si on était marié, si vous voulez. Hein. Mais bien sûr, il restait encore une étape, c'est-à-dire la consommation du mariage. Donc l'Église est cette fiancée, elle est fiancée au Christ. Dans la tradition juive, comme je le disais, les fiançailles ne sont pas séparées des épousailles. Il y a certes une distinction, mais quand on est fiancé, donc on est considéré déjà comme marié. C'est une question de temps, d'étape, et aussi de mise à l'épreuve en attendant la fête du mariage et sa consommation. La fiancée prend un bain, rituel de purification, qu'on nomme mikvé, la veille de la célébration du mariage juif, et les mariés doivent jeûner le jour du mariage jusqu'à la cérémonie et lire durant ce temps des prières. Et du coup, cette coutume, elle éclaire le texte de Marc 2, 18, 20. On vient lui dire « Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus de répondre « Les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. » Donc, l'Église est en train de se préparer. Nous nous préparons pour ces épousailles, pour les noces de l'agneau. Nous nous préparons pour cette rencontre extraordinaire. Alors, précisons, notons que l'Église de Jésus-Christ reste la mariée, même si l'époux lui a été enlevé. Elle reste l'épouse parce que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Christ, lui a été donné, et ceci jusqu'aux épousailles. Mais l'épouse, elle vit cette relation dans le jeûne, parfois dans les tribulations. Cette situation décrit donc à la fois notre union spirituelle, non pas à distance, hein, c'est une vraie relation puisque son esprit nous a été donné, notre union spirituelle, une union non encore consommée, comme ce sera le cas pour le jour des noces de l'agneau, quand notre Seigneur viendra dans sa gloire prendre son épouse avec lui et la présenter définitivement à son Père. Cette attente des noces de l'agneau confirme donc l'attitude de l'Église qui est dans l'épreuve, en fait, d'une attente de la consommation. Et en même temps, dans cette épreuve, dans cette attente, elle n'est pas passive. Elle ne dort pas comme les vierges folles. Elle est dans sa responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ en attendant la venue de l'époux, de son bien-aimé. Alors on peut lire bien sûr le livre Cantique des Cantiques dans cette perspective-là, même si ce texte-là directement ne parle pas de ça, aucun indice précis dans ce texte nous parle de façon allégorique de cette relation entre l'Église et Christ, mais effectivement on peut trouver dans ce texte-là, à la lumière en tout cas d'Éphésiens 5 et de ces textes que je viens de lire, des analogies. Et donc cette attente, elle est exprimée par l'épouse aussi bien que par l'esprit. Maranatha, viens Seigneur, je ne sais pas si parmi nous il y a des gens qui sont pressés que l'époux vienne, ou vous êtes bien, bon, on est bien, pas pour tout le monde je crois sur Terre, il semblerait qu'il y ait quelques millions de personnes qui ne sont pas bien. Maranatha, viens Seigneur, viens. L'esprit et la mariée disent viens. Que celui qui entend dise viens. Vous le dites, hein? Viens Seigneur. Ouais. Viens, que celui qui a soif vienne. Ce n'est pas un cri de désespéré, c'est un cri de foi. C'est un cri d'amour, c'est parce que nous sommes l'épouse, nous l'aimons. Alléluia. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. Là, on sent dans cette description vraiment une communion très forte qui dépasse le cadre même de la rationalité. Cette espérance du retour de l'époux, elle n'est pas une attente passive. Hein. Au contraire, cette attente exprime en fait un temps de préparation de l'épouse. L'Église se prépare pour cette noce à venir. Et dans cette attente, elle ne vit pas dans une forme de nostalgie, elle est repliée sur elle-même, la notion de forteresse assiégée. Non, elle n'est pas indifférente, l'épouse, l'Église, à la situation du monde, bien au contraire, des hommes et des femmes que nous côtoyons chaque jour. Justement, pour cela que nous disons Maranatha, parce que nous sommes sensibles à cette souffrance. À ce titre, justement, cette sensibilité à la souffrance du monde et à l'engagement du peuple de Dieu sur cette terre, vous savez, dès les premiers temps de l'ère chrétienne, l'Église a dû faire face à la critique des païens de l'époque, les Romains, critique d'un christianisme, comme on dit, opium du peuple. On a un théologien qui s'appelle Tertullien, qui a vécu au IIe siècle, début du IIIe, qui a dit ceci en réponse à ces critiques. On nous traite en étrangers, nous les chrétiens, étrangers de la société, mais comment pourrions-nous l'être, nous qui vivons avec vous, qui avons même nourriture, même vêtements? Nous ne sommes pas des exilés de la vie et ne répudions aucun fruit des œuvres de Dieu, c'est-à-dire des bienfaits que Dieu nous donne sur terre, bien que cherchant à en user de façon raisonnable. Nous habitons ce monde avec vous. Donc il parle aux païens qui critiquaient les chrétiens, fréquentant forums et boutiques, j'allais dire tavernes, mais non, peut-être pas, commerçant, navigant, travaillant la terre comme vous autres. Aujourd'hui, on irait programmant sur ordinateur, mais sans en fréquenter les cérémonies ni partager les spectacles. Là, il parle des jeux du cirque, évidemment, et des lupanards et tout le reste. Et puis on a aussi un texte intéressant qui date de la fin du IIe siècle et je ne peux pas résister à l'idée de vous le lire. C'est une fameuse lettre à Diognète, un nom de l'époque. Voilà ce qu'il dit concernant les chrétiens. Donc on est là rendu à peu près à la fin du IIe siècle. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Là, il fait allusion aux différentes écoles philosophiques de l'époque. Ils se répartissent, donc les chrétiens, dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie, une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'abandon des enfants. Quand on ne pouvait pas les élever, ben on les laissait mourir, quoi, on les déposait quelque part. Et l'Église a justement eu un ministère très important pour recueillir ces enfants-là et pour les sauver. Donc il continue, ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois, etc. etc. C'est un texte très intéressant, bon, qui est très ancien, mais qui nous donne donc une idée de la façon dont considérer la vie chrétienne, et qui, somme toute, est celle que la Bible nous décrit en tant que chrétien. Donc oui, nous nous conformons aux lois de nos pays, mais notre citoyenneté, elle est céleste, et nous n'avons pas d'autre roi et d'autre Dieu que celui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Alors, cette espérance donc du retour de Jésus, on le comprend, n'est pas une attente passive. Ce temps de l'Église, donc, qui sur terre, l'Église qui se prépare à rencontrer son époux, bien, est un temps où l'épouse témoigne de sa foi, ce qu'elle est en tant qu'épouse. Et encore une fois, ce temps peut être éclairé aussi par la tradition juive des épousailles, à savoir qu'avant les noces, l'épouse prend un bain nuptial, puis elle se parfume avec un parfum de grand prix, qui est une façon une purification, l'idée d'un perfectionnement. Et pendant ce temps, l'époux prépare la chambre nuptiale. Et je vais lire donc ce texte d'Éphésiens 5, 25 à 33, qui éclaire ce que je viens de dire, ou plutôt qui est éclairé par le rituel du mariage juif. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Jamais, écoutez bien, jamais personne en effet n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est là ce qui nous intéresse. Je ne suis pas en train de faire une prédication sur la conjugalité humaine, là. Ça c'est un autre sujet, on pourra peut-être en avoir, mais là, c'est ce qui nous relie au Christ. Il y a là un grand mystère, je dis moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Un grand mystère. Et maintenant, venons-en à l'aboutissement, à la finalité de tout ça, les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Alors, encore une fois, selon la tradition juive, pour ces noces de l'agneau, le père devait donner l'autorisation au fils d'aller chercher l'épouse. C'était le père. L'épouse doit avoir une lampe allumée. Rappelez-vous la parabole des dix vierges. Et aussi, dans Apocalypse 1, quand Jésus est au milieu des sept porte-lampes, les chandeliers, qui sont en fait les sept des églises. Et puis, il y avait le son du chauffard, c'est une sorte de corne de bouc, qui pue d'ailleurs pas mal. À un moment donné, c'était la mode. Ça soufflait de partout et vous étiez à côté. Bon. Puis le son du chauffard qui avertit de la venue de l'époux. Ah, ça, mais c'est la dernière trompette de l'enlèvement de l'Église. La Bible nous en parle. Et puis après, c'était la rencontre sous la roupa. C'est, vous savez, ce dé où il y avait une sorte de voile dessus, là. Un drap ou une étoffe ou un châle de prière qui était étendu, soutenu par quatre piliers fixés devant l'arche sainte ou transporté par des assistants à l'endroit où se tiendra la cérémonie. Elle symbolise donc le foyer que devra construire le couple. Pardon. L'épouse vient rejoindre alors son époux sous la coupa, sous ce dé, et le futur marié donc entre le premier sous cette sorte de foyer symbolisé. Et quand la fiancée entre à sa suite sous ce dé, donc, c'est comme si le marié lui fournissait vêtements ou abris, ce qui symbolise publiquement ses nouvelles responsabilités à son égard. Et donc là, ça rejoint le texte qu'on a lu dans Éphésiens 5, que le Christ nourrit et prend soin de son Église. Il la protège. Et puis après, c'était sept jours de fête sous le toit de la maison du Père. La maison du Père, rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, je vous prépare une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Beaucoup de demeures. Quelle espérance nous avons, mais c'est extraordinaire. Fils, cette puissance de communion que nous avons avec le Christ et le Père, que l'Esprit alimente dès maintenant dans nos vies et dans le peuple de Dieu. Et Jésus a dit, si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre, l'époux qui vient auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi, c'est-à-dire dans la maison du Père, dans cette communion extraordinaire. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Donc on voit que Jésus et les auteurs bibliques, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, ont utilisé l'image de la conjugalité pour décrire cette relation privilégiée entre l'Église et son époux, Jésus-Christ. Alors, à la lumière de cette analogie, cette image qui est si forte, si parlante, si puissante, comment exprimer en Église cette conjugalité spirituelle ? Trois choses. Et puis, chacun verra comment décliner ça dans sa propre vie et comment apporter sa pierre à l'édifice pour que nous puissions être justement le reflet de cette épouse. Premièrement, entrons dans sa louange de notre époux. Exprimons sans tabou notre joie de vivre cette relation d'épouse avec Jésus. C'est là où je me dis, c'est vrai qu'en tant qu'homme, encore une fois, on n'a peut-être pas la même sensibilité, mais en tout cas, il doit y avoir des émotions. Notre corps doit exprimer quelque chose. J'avoue que je suis quand même très frustré, je dois le reconnaître, devant le peu de marques d'expression de louange que nous avons au milieu de nous. Je vous dis, je suis très frustré de ça. Et peut-être moi le premier, il faut que je m'interroge aussi. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je dis, il y a un décalage. Il y a un décalage qui m'étonne. Je ne sais pas de quoi ça vient. La deuxième chose, servons-le en priorité. Il est notre époux. J'ai dit tout à l'heure que dans la conception du mariage, Kiddushim, donc cette idée de consécration, nous lui sommes consacrés. Donc servons-le en priorité. Nous avons été mis à part pour ça. Troisième piste, soyons fidèles. Puisqu'on parle de conjugalité, soyons fidèles dans notre amour pour Jésus. Lui, il est fidèle et on a vu qu'il prend soin de son Église qui est son corps. Il prend soin de nous, il intercède auprès du Père pour nous, Il continue de nous purifier en la lavant par l'eau de la parole, hein, par cette parole qui est la vérité, qui nous libère, qui nous donne la vie, qui nous donne à manger, qui nous donne à boire. Il alimente notre relation spirituelle, il nourrit notre âme. Prenons le temps vraiment de nous laisser interpeller par le Seigneur et par son Esprit ce matin. Amen.